Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine.
Si.
C'est-à-dire ?
Juste devant la grille, s'il te plaît.
Bah, c'est nouveau, ça.
Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comment elle est stylée, notre voiture ?
Eh, comme ta mère.
Démarquez-vous avec style. Grâce à la Toyota EcoCross, à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Toyota.
Toyota EcoCross Dynamique LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990 euros réservé aux particuliers pour toute commande entre les 3 et 18 janvier. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Octobre 1986, dans une belle maison de campagne du Connecticut, on est au nord de New York City. Les arbres flamboient, c'est l'été indien en Amérique. Des chevaux, des chiens gambadent sur le domaine et à l'intérieur, feu de bois. Il y a là deux beaux fauteuils avec des hommes calés dedans. Nous sommes chez le comédien Paul Newman. Tout le monde connaît au moins un ou deux de ses films cultes. Hein, la chatte sur un toit brûlant, Exodus, Le rideau déchiré, bien sûr, Butch Cassidy et le Kid, Verdict, La couleur de l'argent de Scorsese. Il est aussi réalisateur. Il a réalisé Rachel ou La affrontement, et il a reçu un Oscar pour l'ensemble de sa carrière en cette année 1986, justement. Il a 60 ans à ce moment-là. Les yeux bleus, bien sûr, ce regard azur, un petit peu inquiet, parce que il s'apprête à se livrer à son vieil ami Stewart Stern, qui est le scénariste notamment de La fureur de vivre avec James Dean. Entre une table basse sur laquelle est posé un magnétophone, Stern appuie sur le bouton record et c'est parti. L'idée, c'est d'écrire les mémoires du comédien qui, malgré sa gloire, a toujours fui les interviews, les journalistes, etc. Il n'aime pas parler et surtout pas parler de lui. Stern a la mission d'interroger les proches du comédien, en plus de lui-même, pour essayer d'apporter un autre éclairage et d'entretien en entretien, de confidence en confidence, cette espèce d'immense confession va durer 5 ans, si bien que la masse de souvenirs accumulés, si l'on ajoute en plus les interviews d'amis, de réalisateurs, d'acteurs, etc., tout ça est énorme, foisonnant. Les deux hommes vont finir par se lasser, on abandonne le projet. « Oh, je suis d'humeur changeante », reconnaît Paul Newman, qui ne veut plus entendre parler de cette autobiographie. Il range les bandes magnétiques dans une boîte à chaussures, Stewart range ses entretiens avec les proches dans une autre boîte, et bref, on oublie tout ça. Et puis, vous savez qu'en 2008, Paul Newman est emporté par un cancer, il a 83 ans, il venait de tourner son 55e film, Les Sentiers de la Perdition, de Sam Mendes. Où sont passés les entretiens de Coin du Feu ? Bon, personne ne suit plus trop. En 2019, une amie de la famille a recensé le contenu d'un garde-meuble oublié. Elle a ouvert une boîte, des dizaines d'enregistrements. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à les retranscrire. Les retranscrire, ça veut dire 14 000 pages. Les filles du comédien vont se plonger là-dedans, découvrir un père qu'elles connaissent mal, et elles confient tout ça à une maison d'édition qui va publier le livre. Et ce livre, c'est celui qui vient de paraître aux éditions de la Table Ronde et qui s'intitule « Paul Newman, la vie extraordinaire d'un homme ordinaire ». Je suis dans la bibliothèque de ma maison du Connecticut, assis au coin du feu, dans un petit canapé très digne. Je viens de fumer un joint et de me remémorer avec une clarté absolue toute la topographie de Shaker Heights, la petite ville de l'Ohio où j'ai passé mon enfance. Tout me revient, des choses que je croyais mortes et enterrées, des choses que je pensais ne jamais me rappeler.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Shaker Heights, où grandit dans les années 20 et 30 Paul, se situe dans la banlieue résidentielle de Cleveland, au bord du lac Erie, l'immense lac Erie qui fait comme une mer lorsqu'on est sur ses rives. Son père, son oncle dirigent une entreprise d'articles de sport, Newman Stern, et Paul joue dans les bois et Paul fréquente les bonnes écoles. Toutes les familles étaient blanches comme neige, dira-t-il. Enfin, je ne sais pas si on peut dire écrit ou dit-il ou dicte-t-il. Pas d'étrangers, pas de noirs non plus dans ses propriétés et ses rues tranquilles. La famille Newman avait beau être la première famille juive à s'introduire à Brighton Road, on était au fond comme tout le monde. Il passe le plus clair de son temps avec son frère Arthur dans leur salle de jeu, où Arthur fait payer à Paul la préférence que lui porte leur mère, Tress, car si Arthur est un bel enfant, Paul, lui, est carrément resplendissant. Et cette beauté, figurez-vous, qu'il va s'en plaindre toute sa vie. Ce livre est simplement l'histoire d'un petit garçon devenu un ornement pour sa mère. Un ornement du foyer admiré pour sa seule nature ornementale. S'il avait été laid, sa mère ne lui aurait même pas adressé la parole. S'il avait été boiteux, s'il avait eu la paupière tombante, elle n'aurait réconforté ce petit invalide que pour satisfaire son propre besoin de se sentir réconfortante, en toute indifférence à l'enfant. C'est sévère, hein, comme phrase. Le jeune garçon trouve tout ça artificiel, c'est sans rapport avec lui, c'est sans souci de lui, pense-t-il. Et l'ami qui est au magnétophone, Stuart, confirme. Paul ne savait jamais ce qui allait lui tomber dessus, si Tress se montait immensément fière de lui, qui était si beau, et le parait de vêtements comme elle décorait la maison, elle pouvait aussi, sans qu'il comprenne pourquoi, le rouer soudain de coups de brosse à cheveux avant de l'étouffer de m'amour. Bref. Paul essaie de mener sa barque comme il peut, entre cette mère un peu seule et un père un peu trop porté sur la bouteille, le soir après la boutique. Un jour, Paul se blesse à la cheville en jouant au baseball. Il tente de rentrer chez lui à quatre pattes tellement il souffre et son père, qui de son côté rentre de sa journée de travail, passe à côté de lui, le regarde, le dépasse et Paul demande de l'aide. « Papa, tu plaisantes ?» répond le père qui laisse le garçon se traîner comme ça sur la pelouse. Et le lendemain, le médecin va quand même diagnostiquer une fracture de la cheville. À la maison, j'étais condamné et considéré comme un bon à rien. Et quand il dit à la maison, en fait, c'est la même chose à l'école. Je n'ai jamais brillé dans mes études, jamais offert à mon père un motif de fierté. À partir de cet âge, il va décrire cette espèce de sensation d'être anesthésié chaque fois que les choses tournent mal à la maison. C'est ce qui va faire de lui, pense-t-il, un handicapé émotionnel. Ce sont ses mots. Mais peut-être aussi ce qui va faire de lui un artiste, parce que s'il y a une chose qui lui plaît dans la vie, c'est jouer, jouer au sens, jouer au théâtre. Il va jouer à l'école dans Robin des Bois, dans un club où sa mère l'a inscrit, il va jouer dans Saint-Georges et le Dragon, et quand il entre à l'université de l'Ohio, preuve qu'il n'est pas si mauvais élève qu'il le dit d'ailleurs, il s'inscrit tout de suite au club de théâtre, parce que, tout simplement, c'est là qu'il se sent le moins mal. Bowling au piano interprétait l'air célèbre de Scott Joplin pour L'Arnaque.
Vous écoutez Radio Classique.
Il va pas traîner tellement à la FNAC, certes, mais à la fac, le jeune Paul Newman. On est en 1942, les États-Unis sont entrés en guerre. Paul Newman devance l'appel, il devient opérateur radio sur un bombardier dans le Pacifique, il est formateur, ce qui veut dire qu'il est participe pas tellement au combat, mais quand même, un jour, son bombardier se jette dans la bataille de Leyte, dans les Philippines, et il est là, dans sa tourelle, qui va être blessé, Paul. Bientôt, le Japon capitule. J'ai vécu la guerre comme une averse passagère. Rien de plus, dira-t-il. Mais, vous savez, il y a toujours cette espèce d'anesthésie émotionnelle qui fait qu'il ne vit pas pleinement les grands moments d'émotion de sa vie. Il reprend ses études à Kenyon, en économie et sciences politiques, et sur le campus, un peu la vie de patachon, les copains, l'alcool, les filles. Paul était anarchique, lascif, dangereux. Les filles l'adoraient parce qu'il était le diable incarné, dit Bob Connolly, qui était un de ses camarades. Les cours l'ennuient. Lui, la seule chose, encore une fois, c'est le théâtre qui l'intéresse. La scène m'effarouchait moins qu'un cours traditionnel, dira-t-il. J'avais énormément d'énergie et beaucoup de personnalité, mais je n'étais pas de ceux qui savent d'instinct jouer Shakespeare ou même des rôles naturalistes. D'ailleurs, Paul préfère la préparation plus que le jeu lui-même. Dans le fond, Il est un metteur en scène, mais un metteur en scène qui s'ignore. Été 49, il intègre une troupe de théâtre estivale à Williams Bay, dans le Wisconsin, et il rencontre une jeune comédienne. C'est sa première relation amoureuse, elle s'appelle Jackie Witt. Ils vont se marier. Sur le moment, ça me semblait la chose normale à faire, dira-t-il. Et tout de suite, elle est enceinte et le père de Paul, de son côté, est malade. Alors le jeune couple rentre à Cleveland et finalement, ce n'est qu'après la mort de son père et la vente de l'entreprise familiale que Paul se libérera pour embrasser pour de bon la carrière de comédien. Ça y est, c'est comme si quelque chose, d'une certaine manière, à travers cette mort, l'avait libéré. Il a 25 ans, il est comédien et coup sur coup, il va s'inscrire en art dramatique à Yale, puis tenter sa chance à New York et intégrer l'Actors Studio, qui est la grande affaire de l'époque. Il apprend à puiser dans ses souvenirs, à rentrer dans ses émotions et ça produit des miracles. Il joue avec cette espèce de mélange d'assurance, d'énergie, d'effroi, de rage qui tout d'un coup éclate. Il fréquente alors les grands noms de l'époque, James Dean bien sûr et Marlon Brando, Elia Kazan qui crée sa propre école. Seulement lui, Newman, se sent un peu comme un imposteur au milieu de tout ce monde-là. Celui qu'on a choisi d'abord pour ses yeux très bleus et non pas pour son jeu. Et peut-être, seulement, il est quand même pris pour jouer dans une pièce à Broadway, Picnic, d'abord dans un petit rôle, puis dans le second rôle, et puis un jour il est amené à remplacer le premier rôle, parce qu'il apprend très vite, il s'adapte, et puis il a ce don de charmer tout le monde, à commencer par le public, ce qui tombe plutôt bien. Il faut dire que le metteur en scène fait de Paul l'incarnation de la sensualité, et on peut dire qu'à Broadway, là, c'est une révélation. Il va rencontrer une comédienne de la pièce, Joan, qui a 23 ans. Elle est joyeuse, elle est solaire, elle est un petit peu débridée. Et il va se laisser emporter par la passion physique et se transformer. « C'est elle qui m'a inventé, » dira-t-il. « Enfin, je me suis senti sexy. » Et Jackie, me direz-vous, eh bien, la vie de famille avec Jackie continue parce que Paul n'ose pas lui avouer qu'il est amoureux de Joan. Ils ont même un deuxième enfant et puis un troisième. Alors, Paul va bien tenter de rompre avec cette comédienne Joan, là, mais ils se retrouvent et puis se séparent et se retrouvent. Et ça va durer des années. Après le succès de Picnic, alors là, c'est Hollywood qui s'en mêle. Vous savez bien comment ça se passe. Et depuis Hollywood, les propositions pleuvent. La Warner lui propose de jouer dans Le Calice d'argent, un péplum biblique un peu poussiéreux avec un réalisateur vieille école. Paul n'est pas très enthousiaste, seulement son agent insiste, alors il va aller à Hollywood. Il se fait aider par un coach qui lui dit « Non, ça va pas. Vous ne pensez pas à ce que vous faites. Vous vous contentez de penser que vous y pensez. » Dans les studios, il va donc croiser James Dean de nouveau. Jimmy, comme tout le monde l'appelle, lui annonce qu'il joue dans « À l'Est d'Éden », dirigé par le maître, par Elia Kazan. Paul n'est pas jaloux, il est simplement résigné. « À mes yeux, obscurément, ce n'était que justice », dira-t-il. Il va quand même décrocher le Golden Globe de la révélation masculine pour le Calice d'argent. Jimmy, lui, remporte le Golden Globe du meilleur acteur. Mais quelle qu'eût été la récompense, Paul n'aurait pas été satisfait parce que il n'arrive pas à se considérer lui-même. Vous avez bien compris qu'il ne s'aime pas. Il dit « J'étais comme un rentier qui n'a pas besoin de travailler. Mon physique a toujours été ma rente, mais pour gagner mes galons, j'ai compris qu'il me fallait autre chose. » Et un jour, Elia Kazan cherche un comédien pour le rôle-titre d'un tramway nommé Désir. Il a proposé à Marlon Brando qui a refusé. Il reproche à Kazan, vous savez, d'avoir livré des noms pendant la commission McCarthy. On est en grande la fin, en tout cas, du McCarthyisme. Newman va passer une audition. Il se donne à fond. Kazan l'observe. Puis il écrit à son scénariste, Schulberg, « Si on ne peut pas avoir Brando, je suis d'avis qu'on prenne Paul Newman. Ce garçon va être une star, mais là, je n'ai aucun doute là-dessus. Il est aussi beau que Brando et sa virilité est non seulement indéniable, mais plus tangible. Il n'est pas encore aussi bon acteur que Brando et ne le sera sans doute jamais, mais c'est quand même un sacré bon acteur avec énormément de puissance, énormément de tripes et énormément de sex appeal. Pas de chance, Brando va changer d'avis. » Il accepte le rôle et vous savez à quel point il va crever l'écran. Autant dire que ce n'est pas encore le tour de Paul.
Thank you.
l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles sous direction d'Esa Pekka Salonen interprétait ce prélude pour le rideau déchiré d'Hitchcock, prélude de Bernard Herrmann. Vous savez que cette musique n'a pas plu à Hitchcock, qui va en préférer une autre, celle de John Addison.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Paul Newman est engagé pour un projet de téléfilm diffusé en direct à la télé, un film sur la boxe qui s'appelle Le Champion. On se dit, il va jouer. Eh ben non, c'est James Dean qui a le rôle titre du champion. Paul n'est que son partenaire. 30 septembre 1955, c'est l'accident. Vous savez, James Dean meurt au volant de sa Porsche en Californie. La production donne le rôle finalement à Paul Newman. Et comme Paul travaille dur, ça va être un grand succès. Et dans la foulée, le réalisateur Robert Wise va lui proposer de remplacer Dean dans un autre film en préparation qui raconte la vie du boxeur Ricky Graziano qui s'appelle Marqué par la haine. Newman rencontre Rocky, qui existe vraiment. Hein. Il le suit dans son quartier du Lower East Side à New York pour s'imprégner de ce rôle. Et ça, ça lui plaît beaucoup. C'est comme ça qu'il va mettre au point sa méthode d'imprégnation des rôles. Le voilà à la Nouvelle-Orléans, sur le tournage des Feux de l'été, d'après une nouvelle de Faulkner. Et il va tomber amoureux de cette ville, de cette musique, de cette atmosphère dans la moiteur. La Nouvelle-Orléans, pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Et il faut dire que sa maîtresse était aussi du casting, la fameuse Joan. Ça le transfigure. Sur le plateau, il se confronte à un comédien qui n'est autre qu'Orson Welles, s'il vous plaît, qui essaie d'accaparer toutes les scènes, évidemment. Orson ignorait la générosité entre acteurs, dit-il. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'arrivait pas à concevoir qu'on laisse à son partenaire les meilleurs cadrages s'il méritait d'être mis en valeur. Peut-être qu'Orson est tout simplement inquiet. Il a vu ce beau jeune homme aux yeux très bleus qui capte tellement bien la lumière. Bref, le film va être un triomphe.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors ça y est, Paul va résoudre son dilemme sentimental. Il va quitter Jackie pour John et se marier à Las Vegas. Il reprend ensuite le tournage d'un film où il joue un mari qui fuit sa femme, justement. Et sa femme est jouée par Liz Taylor. Cet ami s'en va parce qu'il est en deuil de son propre copain, Skipper. Dans la pièce de Tennessee William, Brick aimait Skipper. Évidemment, c'était une pièce d'homosexualité latente, mais Richard Brooks, le réalisateur, a caché tout cet aspect, bien sûr. Le film n'en est pas moins un chef-d'œuvre, servi par l'intensité dramatique de Liz Taylor qui vient de perdre son mari dans la vie et de Paul Newman qui est tout en mélancolie retenue. Richard Brooks dit « Il y a toujours en lui quelque chose qui demeure secret et refuse de se dévoiler facilement. Son grand talent lui permet de garder en lui ce secret. Paul possède une sorte de pureté. Il s'efforce toujours de conserver une sorte de dignité, une certaine décence, une certaine honnêteté qu'il veut préserver au fond de lui-même. » Le film va, pendant 4 semaines, être numéro 1 au box-office. Paul a 33 ans à ce moment-là et je crois qu'on peut dire qu'il est devenu une icône. Ce qui paradoxalement ne lui plaît pas. Hein. Je veux laisser une trace qui rétablisse la vérité, qui perce toute la mythologie accumulée autour de moi et détruise quelques légendes et tienne les requins à distance, dit-il. J'y reviendrai sans doute dans mes vieux jours pour en tirer une autobiographie qui s'approche de la vérité parce que mon histoire officielle n'a rien à voir avec la vérité. C'est la seule raison d'être de ce livre. C'est étonnant de voir comment cet homme tellement servi par les circonstances, tellement servi par la vie d'une certaine manière, refuse d'accepter les choses telles qu'elles sont et toujours se sent dans quelque sorte illégitime dans les grands rôles que lui a offert non seulement le cinéma, mais l'existence. Il y a chez lui la volonté, peut-être, d'une certaine manière, d'être plus fort, d'être plus vrai que n'est le rôle qu'on lui confie. Il y a chez Paul Newman une volonté aussi, je le crois, d'être admiré pour son métier, pour son talent, pour ce qu'il essayait de mettre au sommet et non pas pour un physique qui certes l'a beaucoup servi, mais qu'il aura considéré jusqu'au bout un peu comme son ennemi.
Vous écoutez Radio Classique.
Un grand merci à Pierre Anquetin pour nous avoir raconté ainsi la vie de Paul Newman. Et je vous propose un petit écran publicitaire, après quoi j'accueillerai, comme il se doit, notre Christian Morin.